Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 28 janvier, nous parlons de la vague de froid qui sévit actuellement sur la région lyonnaise et la préfecture qui décide de mobiliser 150 places hôtelières supplémentaires pour accueillir les sans-abri. Le vote d'investiture de la primaire populaire a commencé hier, il se termine dimanche à 17h. 467 000 citoyens se sont inscrits et peuvent participer. Yannick Jadot, pour sa part, présentera son projet des possibles à Lyon samedi, un meeting qui se tiendra à l'espace H7 Quai Perrache. La ville de Lyon adopte son budget primitif, un film qui ne va pas passer inaperçu et qui sort le 16 février prochain, Un autre monde, un film réalisé par Stéphane Brisé et qui vient clore une trilogie consacrée au travail et à l'entreprise. Gaël Bossier a rencontré le réalisateur. Et puis nous parlons sport à la fin de cette édition, avec du basket, du foot et du rugby.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La vague de froid se poursuit sur Lyon et le Rhône. Chaque nuit, il gèle. Pascal Maillot a décidé de mobiliser 150 places hôtelières supplémentaires. Elles viennent renforcer le dispositif d'hébergement d'urgence. Ces 150 nouveaux lits viennent s'ajouter aux 527 places exceptionnelles, 263 en hôtel, 264 en structure collective, déjà ouvertes. Ces nouvelles capacités d'accueil doivent permettre d'assurer l'hébergement des familles sans-abri, signalées par les acteurs de la veille sociale. Le parc d'hébergement d'urgence lyonnais atteindra dans les prochains jours près de 8600 places. 7897 sont ouvertes toute l'année contre 6557 seulement en 2020. Une cinquantaine de saleuses a été déployée cette nuit sur les axes de circulation à Lyon. Objectif prévenir les risques de verglas, des précipitations sous forme de pluie fine étaient annoncées pour ce matin. Or, les sols sont gelés depuis plusieurs jours. La métropole conseille aux automobilistes de réduire la vitesse et d'augmenter la distance entre les véhicules, de privilégier également les transports en commun et de télétravailler si possible. La circulation différenciée est en tout cas levée. Une légère perturbation va entraîner quelques pluies et du vent ce vendredi. La pollution sera donc dispersée. Tous les véhicules sont donc à nouveau autorisés à circuler aujourd'hui.
Lyon Demain, une radio, une application, un site internet, une chaîne YouTube, des podcasts. Lyon Demain, un média complet au service des Lyonnais qui font bouger la ville.
Marion Maréchal va-t-elle imiter Gilbert Collard, dont elle est proche? Aucune décision n'est prise, assure-t-elle. Marion Maréchal se donne un mois pour se décider entre un ralliement à Éric Zemmour et garder ses distances avec la présidentielle et donc avec la politique. Si elle soutient Zemmour, elle revient donc en politique et devra quitter l'ICEP, l'école de sciences politiques lyonnaise qu'elle dirige. Le vote d'investiture de la primaire populaire a commencé hier. Il se terminera dimanche à 17h. Près de 467 000 citoyens sont appelés à évaluer au jugement majoritaire les 7 candidats en lice, à comparer aux 22 000 militants en PS, 122 000 écologistes, 260 000 insoumis qui ont désigné leurs candidats respectifs. Les votants sont appelés à départager les candidatures à partir de 5 mentions de très bien à insuffisant. Yannick Jadot lui présentera son projet des possibles à Lyon ce samedi. C'est le troisième événement national de sa campagne. Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, prendra la parole à 15h avant une table ronde des maires écologistes en présentiel et en duplex, animée par Éric Piolle, le maire de Grenoble, et Yasmine Bouaga, la maire du premier arrondissement. Le thème « La République des territoires, comment changeons-nous déjà la France ?» Un discours de Yannick Jadot est ensuite prévu vers 16h, un meeting qui se tient samedi à l'espace H7 Quai Perrache. La ville de Lyon adopte un budget primitif de 823 millions d'euros pour 2022, 630 millions consacrés aux dépenses, 152 aux investissements. La municipalité écologiste prévoit de créer 47 postes de fonctionnaires et d'augmenter les salaires de ses employés pour un total de 7,1 millions d'euros. En prévision des possibles perturbations liées au Covid-19 en 2022, la ville a budgété 2,5 millions. Budget adopté à 48 voix pour, 16 contre. Des affiches sont apparues dans la nuit de mercredi à jeudi sur des façades d'immeubles du Grand Lyon. L'Union des étudiants juifs de France a apposé en effet des affiches aux adresses où habitaient les 119 enfants partis pour Auschwitz durant l'occupation. Une action en mémoire des déportés, en écho également à l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Un rappel de l'horreur nazie qui se veut comme un cri d'alerte dans la société d'aujourd'hui. À Montchat, les étudiants ont ainsi voulu rendre hommage à Laure Dreyfus, 12 ans, rue de Saint-Cyr dans le 9e. Une affiche a été apposée pour rappeler la rafle de 5 enfants habitant tous à la même adresse.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
Stéphane Brisé, réalisateur de 9 longs métrages, s'intéresse à des sujets comme un journaliste. Il se documente, rencontre des témoins et mène une enquête avant de passer à l'écriture d'un scénario avec son co-scénariste Olivier Gorce. Après La loi du marché en 2015, En guerre en 2018, Un autre monde, son dernier film, vient clore une trilogie consacrée au travail et à l'entreprise. Gaël Bossier est allé à la rencontre de Stéphane Brisé pour en savoir plus sur ce film annoncé sur les écrans le 16 février.
Stéphane Brisé, je suis ravie de vous rencontrer. On parle de votre film qui sort le 16 février prochain, qui s'appelle Un autre monde, que vous avez coécrit avec Olivier Gorce sur l'histoire d'un cadre d'entreprise, une grande entreprise, hein, parce qu'il y a plus de 500 salariés, qui est pris en étau finalement entre des injonctions contradictoires diverses. Je crois que pour construire votre film, vous avez rencontré énormément de cadres.
Ouais, je fais ça à chaque film. Moi, je suis finalement quelqu'un qui passe sa vie dans un bureau. Dans mon bureau, derrière un ordinateur, à essayer de construire des histoires, mais encore faut-il avoir une matière qui soit suffisamment puissante et crédible. Et pour avoir cette matière, je vais rencontrer les gens. Alors je pars de l'intuition d'un endroit du monde qui est intéressant à regarder. Et puis ensuite, je vais, comme un journaliste, rencontrer les gens. Beaucoup, beaucoup. Donc là, en l'occurrence, j'ai rencontré des dizaines de cadres, des directeurs de sites industriels, des directeurs généraux, qui m'ont raconté des histoires difficiles, compliquées, parfois douloureuses, qu'ils avaient vécues dans l'entreprise, avec le sentiment, finalement, d'avoir été pris entre le marteau et l'enclume, le sentiment d'avoir été longtemps considéré comme... On les a voulu pensants et aujourd'hui, ils avaient le sentiment qu'on ne les voulait plus qu'exécutants. Et ce transfert-là a été source de grandes difficultés, de douleurs. Et puis, ça s'est mélangé avec la vie personnelle. Et c'est toutes ces histoires qu'on m'a racontées que j'ai voulu raconter dans le film.
En tout cas, vous vous intéressez au travail. On l'a vu, bien sûr, avec les films précédents. On peut presque parler d'une trilogie avec En guerre, La loi du marché et aujourd'hui Un autre monde. Celui-ci, il est différent parce qu'il y a une part... pour l'intimité du personnage que joue Vincent Lindon, qui est très importante. Et puis, bien sûr, il y a la superbe Sandrine Kiberlain, qui est magnifique et puissante aussi dans le film. Il y a vraiment ce contrepoint. Et je vous disais tout à l'heure, Un autre monde, pour moi, c'est les deux mondes qui s'opposent entre la cruauté de l'entreprise et cette forme de tendresse qui est entre les deux personnages.
Ouais, il y a de l'amour entre eux, il y a beaucoup d'amour. Et pourtant, c'est un couple qui est en train de se séparer parce que c'est plus possible, parce que il a ramené depuis des années ses inquiétudes du travail à la maison. Donc sa femme lui dit, voilà, c'est terminé parce que le projet qu'on avait ensemble et qui faisait sens pendant des années, ça fait quelque temps qu'il ne fait plus sens. Donc je te quitte, non pas parce que je t'aime plus, non pas parce que tu t'es comporté comme un goujat ou qu'il l'aurait trompé à tour de bras, c'est je pars parce que ça ne fait plus sens. Et en même temps qu'elle dit ça, elle dit mais j'ai 50 ans, j'en ai plus derrière que devant. Et elle dit j'ai peur. Donc elle fait preuve là d'un courage colossal en faisant ça parce qu'elle prend une décision qui ne l'arrange pas. Mais elle quitte une situation qui est insupportable. Et ça fait partie des événements très puissants de sa vie qui vont aussi certainement l'obliger à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne sérieusement à l'endroit du travail. Mais effectivement, sont traités à peu près à équivalence le monde du travail, le monde de sa famille, avec la porosité incroyable qu'il y a entre ces deux espaces.
Vous disiez tout à l'heure dans la conférence de presse, et j'étais tout à fait intéressé sur la manière en fait dont vous allez communiquer aujourd'hui sur un réseau professionnel qui s'appelle LinkedIn, avec une petite vidéo de 2 minutes extrêmement punchy, extrêmement efficace. Est-ce que c'est important aussi de parler à ces cadres parce que vraiment votre film donne une image très forte en fait de ce monde-là?
Alors d'abord, moi, je voulais sortir aussi d'une opposition que parfois je trouve qui est réelle, mais que je trouve parfois simpliste, juste une opposition de classe, quoi, des ouvriers qui sont certes les plus modestes d'entre nous et qui subissent de plein fouet certaines décisions économiques extrêmement brutales. Ils sont les premiers à les subir. Et ces injonctions de réduction de coûts et qui passent par des réductions de personnel sont portées par des cadres. La question, c'est de savoir si ces cadres sont tous si à l'aise que ça avec les décisions qui sont prises tout en haut. Moi, je parle d'entreprise. Hein, dans mes films, je parle de casse sociale dans des entreprises qui vont bien. Et ce qui est le cas, là, lui dirige un site industriel, ce n'est pas sa boîte, hein, il ne l'a pas créé, c'est un manager, c'est un cadre d'un assez haut niveau. Il travaille à l'intérieur d'une entreprise de niveau mondial, quoi. Il y a des sites industriels comme ça, il y en a plusieurs en France, il y en a plein dans le monde, etc. Donc c'est une décision qui est prise, c'est clairement expliqué dans le film, c'est une décision boursière. Ce n'est pas lié un dysfonctionnement de son site industriel. C'est clairement une décision boursière de réduction de coûts, et dans cette réduction de coûts, il va falloir retirer des salariés. Le problème, c'est qu'on arrive au moment où on est à l'os, quoi, au moment de rupture, au moment de rupture des corps, des têtes et aussi potentiellement de l'entreprise. Et effectivement, on s'est fait la réflexion qu'il y avait un réseau social dédié finalement au cadre, en tout cas où on retrouve tous les cadres, et qui, moi je pensais naïvement que c'était un réseau social qui était juste un endroit de curriculum vitae. En fait, à des moments on m'a dit mais tu sais, à tous ces cadres que je côtoie sur les tournages, parce que le film est fait avec beaucoup d'acteurs non professionnels aussi, en plus de Vincent Lindon et de Sandrine Kiberlin, ils m'ont dit non, mais c'est un réseau où il se passe plein de choses, il y a des gens qui s'expriment, qui prennent la parole sur des thématiques, etc. Et vraiment là, ton film qui embrasse, me disait-il avec lucidité, les problématiques qui appartiennent aux cadres, pourquoi tu irais pas en parler sur LinkedIn? Donc effectivement, la fabrique, c'est pas une bande annonce, c'est une petite vidéo comme ça, avec qui est courte, qui fait 2 minutes, qui effectivement met en relief les problématiques de sens de la mission, du courage, de la famille. On parle de ça avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Et voilà, c'est parti sur ce réseau-là. Il y a des retours qui sont visiblement assez forts. Et effectivement, ça fait sens, puisque c'est là où sont réunis pour le travail vraiment un grand nombre de personnes qui sont en connexion directe avec ces problématiques qui sont mises en scène dans le film. Donc, on s'est dit que c'était une idée intéressante d'aller dire à cet endroit-là que le film existait et qu'il parlait, j'espère que c'est pas immodeste de le dire, que parler avec lucidité, clairvoyance et empathie aussi des problématiques que certains cadres ont sur les épaules.
Vous parliez de grande solitude des cadres, et je crois que c'est le cas. Il y a une très grande solitude, et pourquoi pas ce réseau social peut-être sortir finalement aussi de cette solitude.
Est-ce que c'est pas un réseau social qui réunit beaucoup de solitude? Ouais. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un terme qui est souvent revenu dans les témoignages, et même, j'ai envie de dire, tout le temps revenu dans tous les témoignages de cadres que j'ai eu pour fabriquer le film. C'était ce sentiment de grande solitude à porter constamment, à supporter les injonctions, parfois souvent contradictoires, qu'il devait porter avec, faire semblant qu'il portait avec conviction quelque chose, et c'est quelque chose qui est visiblement, je l'entends, extrêmement douloureux pour beaucoup de ces cadres.
Moi, j'avais envie qu'on parle de la musique. Camille Rocailleux a composé pour vous, il a fait le Conservatoire de Lyon, je le précise. Il a composé pour vous une bande originale absolument merveilleuse, avec un ajout enfin d'Anne Sylvestre, J'aime les gens qui doutent. J'aimerais que vous me parliez de l'importance de la musique dans vos films, et aussi pour vous, à titre personnel, et on terminera là-dessus.
Moi, je construis la musique toujours pendant l'écriture du film. Pour moi, c'est une ligne d'écriture qui fait partie intégrante. C'est quelque chose qui peut s'exprimer, que je ne raconterai pas par l'image, que je ne raconterai pas par l'écrit. C'est mon troisième pied, quoi, voilà, sur lequel je construis. Moi-même, je ne suis pas du tout musicien. J'ai même pas tant qu'une culture de dingue en musique, mais au moment où je fabrique le film, je suis pas aux commandes des instruments, mais clairement, je suis en dialogue incessant pour construire la partition. Enfin, le musicien, c'est Camille, mais il avait avec moi un interlocuteur précis du sens, et je lui ai demandé une partition qui avait à voir avec le traduire une idée de tension intérieure du personnage, une idée d'enfermement intérieur du personnage. Et puis, il a apporté quelque chose d'absolument sublime avec une voix lyrique qui vient par-dessus, qui vient peut-être révéler un paradis perdu chez ce personnage. En tout cas, c'est vrai qu'il a composé quelque chose d'assez puissant, juste, qui trouve sa place dans le film d'une manière assez incroyable. Et c'était ma première collaboration avec Camille, comme c'est le cas à chaque fois sur chacun des films, parce que j'ai fait 9 films et c'était avec 9 compositeurs différents. Je change à chaque fois de compositeur. En tout cas, je trouve que là, c'était une belle recrue quand même.
Merci beaucoup Stéphane Brézé. Je vous laisse partir pour la projection de votre film en avant-première, puisque je rappelle qu'il ne sortira que le 16 février prochain. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci Gaël. Les sports à présent, basket en Euroleague, et l'ASVEL largement dominé à Barcelone. Les Villeurbanais n'ont jamais existé en Catalogne. Le Barça, vice-champion d'Europe, ne leur a laissé aucune chance et s'est imposé 84-71. L'ASVEL joue à Nanterre demain samedi. Le départ possible de Bruno Guimaraes pour Newcastle se précise. Le joueur a donné son accord à Newcastle. L'Olympique Lyonnais finalement ne chercherait pas à le retenir. L'OL serait en quête d'un remplaçant toutefois. Romain Fèvre, 23 ans, 7 buts en Ligue 1 cette saison, veut quitter Brest. Son club ne s'opposerait pas en cas d'offre suffisante de la part de l'Olympique Lyonnais. La milieu de terrain des Portland Thorns et internationale américaine aux 108 sélections, Lindsay Horan, championne du monde en 2019, va rejoindre l'Olympique Lyonnais féminin sous forme de prêt. Ce prêt va s'étaler sur une saison et demie, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2023. En rugby, Félix Lambet a donné son accord afin de poursuivre sa carrière jusqu'en 2025 au Loup. Et puis en top 14, le Loup joue samedi à Perpignan, positif au Covid-19 et placé à l'isolement. Pierre Mignoni ne sera pas à la tête de ses troupes. Léo Berdeux, libéré par le 15 de France, pourra lui être aligné. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez un excellent week-end.